Bien, nous reprenons nos travaux. J'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Henri Laurence. Nous sommes voisins au quatrième étage du 3 rue d'Ulm, à l'Institut du monde contemporain. Henri Laurence, il est connu et reconnu internationalement comme l'un des grands spécialistes du Moyen-Orient. Il a ici au Collège la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe depuis 2003. Et il a une bibliographie très abondante, j'en suis jaloux. Il vient de publier récemment son dernier ouvrage paru, s'appelle « Le passé imposé ». Et je suis ravi de lui donner la parole pour son exposé, dont le titre est tout un programme « Orientalisme et méritocratie, l'analyse des sociétés islamiques, indiennes et chinoises, 18e, 19e siècle ». Donc voilà. Nous allons nous décentrer dans le temps et dans l'espace.
Voilà, je viens d'apporter un peu d'exotisme, à la fois d'histoire, d'orientalisme et de région. Alors, bon, l'orientalisme, évidemment, comme discipline, ça apparaît en Europe au XVIIe siècle, lié à la fois aux efforts d'érudition, mais aussi aux voyageurs, et pour l'espace en dehors du monde musulman, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, à la fois des commerçants, mais aussi les missionnaires, en particulier les jésuites. Et on verra tout au passage combien les relations des jésuites ont influencé la pensée européenne de l'époque dite moderne ou classique. Alors, pour bien comprendre le regard et l'interrogation de ces sociétés du 17e, 18e siècle, il faut d'abord rappeler que les sociétés européennes de cette époque, dites d'Ancien Régime, étaient des sociétés d'ordre définies par une hiérarchie d'honneur et de dignité. Ce sont les fameux trois ordres de la société française, la noblesse, le clergé et le tiers-état, c'est-à-dire une logique de fonctionnalité sociale. Au-delà des trois ordres, il existe une pluralité de statuts fixant les droits et les devoirs des membres de ces groupements. Si la naissance compte énormément pour déterminer l'appartenance statutaire, il est quand même possible de gagner en honneur et en dignité, ne serait-ce que par les différents mécanismes de l'annoblissement. Alors, l'État monarchique européen est indissociable de la société d'État ou d'ordre, soit qu'il les domine, soit qu'il soit amené à composer avec elle. Ça permet donc de déterminer que la société d'ancien régime européen n'est qu'une des versions des sociétés définies par l'homo hierarchicus cher à Louis Dumont. Ici, la pluralité des statuts, ordre, état, etc., conduit nécessairement à une inégalité des droits, puisqu'ils sont en partie spécifiques à chacun des statuts. Mais en revanche, comme tout le monde a sa place dans le système des ordres, il n'y a pas de brouillage. Personne ne s'interroge quelle place dois-je occuper dans la société. Elle est fixée à l'avance. Et s'il est possible de changer de statut, la naissance conditionne largement la place sociale. Rappelons que pour la France, par exemple, il faut avoir quatre quartiers de noblesse pour appartenir à la noblesse dite de race. C'est-à-dire donc il faut deux générations pour quelqu'un qui est anobli, pour que ses petits-enfants soient considérés comme appartenant à la noblesse de race. Et ceci est constamment vérifié, parce que comme l'appartenance à la noblesse fixe des exemptions fiscales, inutile de vous dire que l'État bureaucratique vérifie constamment les titres de noblesse pour des raisons purement fiscales. Dans une société d'ordre, le mérite existe, mais il est d'abord fidélité aux actes des ancêtres. En ce sens, on doit être au moins leurs égaux. Il existe ainsi une prédisposition à bien faire qui justifie par là même le système des rangs. Autrement dit, le mérite est fidélité au passé et non annonce d'avenir, comme dans le monde qui commence avec la Révolution française. C'est-à-dire, selon l'expression consacrée, monde où chacun a son bâton de maréchal dans sa giberne. Et en effet, la révolution française pouvait inverser le mérite et projection vers l'avenir et non plus héritage du passé. Mais, et ça qui est important, ce qui était au départ une vision fonctionnelle de la société française s'est transformé progressivement en interprétation historique. La noblesse française serait l'héritière des conquérants germaniques et la féodalité serait le produit du partage des conquêtes. C'est la fameuse thèse d'Henri de Boulainvilliers, pour qui le tiers-État descendrait des Gaulois, et on sait que cette thématique est reprise de façon un peu soft, on dirait, par Montesquieu, dans l'ensemble de l'esprit des lois. Et plus tard, au XIXe siècle, les historiens, enfin à partir de la Révolution française et jusqu'aux historiens romantiques, l'histoire de France sera expliquée par le conflit des deux races, les Gaulois et les Germains, jusqu'à Augustin Thierry, voire même Guizot. Guizot qui transformera, on le sait tous, la guerre des races par la lutte des races par la lutte des classes en 1830, inventant donc le concept de lutte des classes. En dehors, l'essentiel de la fonction publique est assuré par des charges vénales, inamovibles et pouvant être héréditaires, c'est-à-dire si on ne les vend pas, vos enfants, enfin mâles, peuvent hériter des charges. À côté des systèmes des charges, qui fait pratiquement l'essentiel de la fonction publique d'Ancien Régime, vous avez ceux qui reçoivent des lettres de commission, c'est-à-dire des lettres fixant une mission à durée déterminée. Les plus connus qui ont des lettres de commission, ce sont les intendants royaux. Mais nous avons aussi cette émergence un peu mal connue des commis, donc qui reçoivent une lettre de commission, qui sont l'équivalent des chefs de bureau des ministères. Aujourd'hui, mais leur statut n'est pas très clair, c'est pas une charge et c'est pas encore la fonction publique au sens où nous l'entendons. Alors, on voit bien donc que la société européenne est une société aristocratique et on voit immédiatement le choc que représente pour les Francs, au sens large du terme, l'approche de l'islam, puisqu'ils ne trouvent pas de nobles et de noblesse en terre d'islam. Au contraire, il se heurte, surtout à partir du XIIIe siècle, au mamelouk. Or, le système mamelouk, exactement l'inverse de la noblesse européenne, puisque les mamelouks sont des esclaves, souvent recrutés chez des non-musulmans, enfin de force, enfants, et qui sont élevés pour devenir des combattants. Non seulement les mamelouks forment l'essentiel des armées à partir du XIIIe siècle, mais en présence de Saint-Louis captif en Égypte, ils suppriment le dernier sultan ayyoubide et créent le sultanat mamelouk. Donc l'idée que le Soudan d'Égypte est un esclave est vraiment un choc moral pour toute la noblesse européenne. Surtout, et ça c'est le principe essentiel, les enfants de mamelouks ne peuvent pas succéder à leur père. Ils sont interdits de succession. Donc progressivement, à chaque génération, les enfants de mamelouks descendent en quelque sorte dans la société civile avec interdiction de recrutement. Alors ce système mamelouk avec beaucoup de modifications, qui s'est perpétué jusqu'en plein XIXe siècle. Alors, ça correspondait à deux impératifs. Le premier, c'est une règle raldounienne, c'était éviter la loi des trois générations définie par Ibn Khaldoun. Alors, vous savez, selon Ibn Khaldoun, le fondateur, il est plein de force, etc. Et donc, il fait la conquête. Le fils, il gère, il administre, mais il ne progresse plus. Et puis une petite-fille, il revient tout parce qu'il est complètement amoli et il est remplacé par d'autres. Donc les États ne peuvent pas dépasser les trois générations. Comme vous n'avez plus de génération, puisque les Mamelouks n'ont pas d'enfants, entre guillemets, la question du maintien de la force est préservée par le système Mamelouk. Par ailleurs, ça interdit la constitution d'une classe sociale qui pourrait contester l'autorité de l'État, ce qui arrive dans le système ottoman, puisque les sultans ottomans utilisent l'équivalent du système Mamelouk avec ce qu'on appelle les esclaves de la porte ou les esclaves du sultan, les Kouls, les Raskins, les Hokams, etc. Mais qui obéissent toujours à la même règle, pas de succession. Alors le second, c'est que ça permet d'éviter la construction d'une féodalité rurale. Puisqu'on forme les esclaves au combat, on n'a pas besoin de leur doter de terres pour financer leur équipement de combat, etc. Donc éviter la constitution de ce qui a donné en Europe naissance au système féodal. Donc à l'époque ottomane, les esclaves... Le sultan a droit de vie ou de mort sur ses esclaves qui portent un nom spécial. En fait, Mamelouk, je dirais, si vous voulez le traduire correctement, ce serait propriété de l'État. Donc ce système se perpétue, se renforce, simplement à la force du temps, on recrute de moins en moins chez les non-musulmans et de plus en plus chez des musulmans, les serviteurs du sultan. Il reste la question des renégats. Les renégats, il y a d'abord ceux qui ont été un peu forcés, c'est-à-dire ceux qui ont été capturés en Méditerranée par la course maghrébine et musulmane, et on les pousse à se convertir à l'islam. Alors, à la fois parce que ça leur permettrait de sortir du statut d'esclave qu'ils ont en tant que captifs, mais aussi parce qu'on leur ouvre des perspectives gigantesques s'ils se convertissent à l'islam. On a le cas d'un pêcheur, d'un garçon de 15 ans à peu près, qui a été capturé à Calabrais en 1536 par Barberousse, un René de Barberousse. Alors je passe sur les détails. Il a fait toutes les guerres de l'Empire ottoman et il a terminé capitaine pacha de l'Empire ottoman, c'est-à-dire grand amiral de l'Empire ottoman à la fin du XVIe siècle. Et tout le monde savait qu'il était d'origine chrétienne, et d'ailleurs, il s'entourait de renégats dans son palais à Istanbul. Alors, ce système servile a fonctionné jusqu'au XIXe siècle, comme le montre la carrière d'Edem Pacha, que j'appellerai l'enfant grec. C'est l'ancêtre de notre collègue Eldem Eldem. Né à Kio, c'est un enfant grec rescapé du fameux massacre de 1822. Fait esclave, il est acheté par Rostrou Pacha, qui est un des grands dignitaires de l'Empire ottoman au début du XIXe siècle, qui l'a élevé dans sa maison, puis envoyé en France, d'abord au collège Louis le Grand, puis à l'école des mines, en 1835. Il a occupé de nombreux postes administratifs et ministériels et sera grand vizir de l'Empire ottoman en 1877-1878. Donc l'enfant grec de Victor Hugo, en fait, il a terminé grand vizir en déclarant spontanément aux Européens que j'avais mis de massacre dans l'Empire ottoman. Alors, ses descendants sont étroitement associés à l'histoire ottomane tardive et à celle de la République de Turquie, et certains se sont même apparentés à la famille impériale. Donc on voit comment un esclave grec de 1820 peut en deux générations, si vous voulez, devenir damad, c'est-à-dire gendre du sultan. Dans l'imaginaire européen, le passage à l'islam pouvait aussi être possibilité de promotion sociale en terre chrétienne, là où on ne pouvait pas réussir en Europe. La conversion à l'islam permettait d'avoir un accès à des charges, des dignités, du pouvoir qu'on ne pouvait pas avoir à cause de son origine en Europe. Pensons tout simplement au Pacha Selim de l'enlèvement au sérail de Mozart en 1782. C'est un renégat espagnol qui, persécuté dans son pays, est allé se réfugier en terre d'islam et devient Pacha. Donc, idée tout à fait courante dans la Vienne de la fin du XVIIIe siècle. Donc, on peut voir que l'islam méditerranéen a adopté sur de nombreux siècles un principe de non-reproduction de la classe gouvernante et combattante, même s'il y a eu, au cours des temps, des accommodements divers. Cette question de la non-reproduction a conduit le grand sociologue Ernest Gellner à parler de castration et de classe castrée. Il faut rompre la relation aussi bien avec les ascendants qu'avec les descendants afin d'éviter la monopolisation du pouvoir par un groupe social héréditaire. Avec élégance, Gellner mettait en symétrie le célibat des religieux catholiques et la non-reproduction des gouvernants en islam. Tous les deux étaient castrés au sens métaphorique du terme. Inversement, les religieux musulmans et les gouvernants européens tendaient à se constituer en groupe héréditaire. Donc c'est la théorie des classes castrées qui permet de régler le problème du mérite par le fait de l'héritage des milieux sociaux d'origine, etc., à noter en sociologie. Alors évidemment, cette vision servile du pouvoir musulman a vraiment été un choc pour la société européenne. Et c'est à partir de cette vision servile et en s'appuyant sur Aristote qu'à partir du XVIe siècle, les premiers politologues, si j'ose dire, européens, ont inventé la théorie du despotisme. Et on oppose donc le citoyen européen à l'esclave musulman. Alors le despotisme est évidemment vu sur deux versions. La première, celle d'une monstrueuse machine de guerre qui fonctionne par la terreur et qui vous menace de vous détruire. Et puis la seconde version au XVIIIe, un système de rendement décroissant qui amène la ruine des sociétés. C'est fascinant parce que c'est la description du discours qu'on tiendra sur l'Union soviétique dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors je terminerai par une citation d'un texte islamo-gauchiste, parce qu'il faut bien, qui est la chronique politique de la décade philosophique, littéraire et politique du Disprérial en deux, 29 mai 1794. La décade, c'est le journal officieux de la Révolution française, enfin à partir de cette date. Donc je cite ce texte qui précède de quelques semaines la chute de Robespierre. Les musulmans d'aujourd'hui, sans fanatisme et sans barbarie, restés sans doute en arrière de nos lumières par ignorance et non par erreur, sont peut-être aussi susceptibles d'une régénération profonde et sans secousse qu'aucun peuple de l'Europe. Si le despotisme de nos gouvernements diffère de celui des autres nations, ce n'est que par les formes et surtout parce qu'il ne pèse point sur ce peuple, auquel au contraire il semble tout dévoué. Cette différence n'est point à l'avantage de la constitution britannique tant vantée par Pitt. En un mot, il n'y a point de noblesse en Turquie. Et donc, la Révolution française salue la Turquie comme le seul pays sans noblesse, à l'exception de la France révolutionnaire. D'ailleurs, c'est la Turquie qui est le seul pays européen qui maintient des relations diplomatiques avec la République française en 1793-1794. Alors, ça, c'est donc le système servile, et c'est la première interrogation. La seconde interrogation, c'est les jésuites en Chine. Les jésuites en Chine, ils rentrent directement en face d'eux le système des examens qui a été créé au début de notre ère en Chine. Alors, évidemment, ça aussi, ça leur donne chez les philosophes des Lumières l'idée que la Chine est la société modèle. Puisque le système des examens définit la classe dirigeante et que cette classe dirigeante est une pure méritocratie. Et à l'époque, il faut se rappeler que les Européens ne connaissent pas les examens. Seul exercice littéraire était la disputatio, débat oral entre universitaires selon des règles déterminées à l'avance, dont l'actuelle soutenance de thèse et le lointain avatar. Pour le reste, la formation est avant tout un processus d'apprentissage auprès d'un ou de plusieurs maîtres qui garantissent les progrès de leurs élèves. Même système en islam, d'ailleurs, à l'Azhar ou à la Zaytouna. L'université, en tant que corporation, appartient pleinement à la société des groupes propres à l'ancien régime. Alors, la surprise chinoise, ce n'est pas tant les examens en tant que tels, ou d'un système d'enseignement, on peut trouver des équivalents. Si on prend le texte de base que vous trouvez sur Internet, sur Gallica, je crois, l'Empire de la Chine et la Tartarie chinoise du révérend père de Halde, publié en 1735, qui est la synthèse des travaux jésuites sur la société chinoise, il décrit un gouvernement paternaliste de mandarins qu'il assimile à des docteurs, et ensuite il assimile les grades des mandarins à licence, etc. Et donc je passe sur la citation, elle est un peu longue. Et donc il assimile les candidats aux examens au grade de bachelier dans l'université française. Et en conclusion, il dit « La noblesse n'est point héréditaire à la Chine, quoi qu'il y ait des dignités qui restent dans quelques familles et qui se donnent par l'empereur à ceux de la famille qu'il juge avoir le plus de talent. L'on n'y a de rang qu'autant qu'on a de capacité de mérite. Quel qu'illustre qu'était un homme, fut-il même parvenu à la première dignité de l'Empire, les enfants qu'il laisse après lui ont leur fortune à faire. Et s'ils sont dépourvus d'esprit ou amateurs de leur repos, ils ramperont avec le peuple et seront souvent obligés d'embrasser les plus vils professions. » Alors, il est vrai qu'on peut succéder au bien de ses parents, mais on ne peut pas succéder aux dignités de ses parents. Et aussi voit-on tous les jours à la Chine des élévations de fortune non moins surprenantes que celles qui se font quelquefois en Italie, pour les ecclésiastiques ou des gens de la plus basse extraction peuvent aspirer à la première dignité des mondes chrétiens. C'est-à-dire quelqu'un de pauvre, mais qui a fait des études de théologie et qui est devenu chrétien, prêtre, peut espérer devenir pape. Et il y a eu des cas dans l'histoire où il y a eu des papes de basse extraction, dit le révérend père de Halde. Et là, on voit qu'évidemment, ils pensent au fond, enfin, c'est un peu la classe castrée toujours de Genner, qui est en jeu. Alors, la pensée des Lumières est donc un applaudissement complet du système chinois. Le plus grand exemple est Quesnay, François Quesnay, le grand physiocrate, qui publie en 1767 « Le despotisme de la Chine », véritable apologie de cet empire qu'il considère être régi depuis millénaires par l'observation des lois naturelles, ce qui explique sa durée. Alors, le seul à ne pas aimer les mandarins et tout, c'est Rousseau, parce qu'il trouve qu'ils sont trop sages, et donc ils n'ont pas de religion, donc ce sont des athées. Et c'est évidemment, pour Rousseau, l'athéisme de la Chine est une abomination. Alors bon, pour le reste, Quesnay n'est pas très intéressant, parce qu'il recopie de Halde, mais en même temps, il le diffuse. Alors, même si on n'a pas une idée directe d'une transmission, il est certain que les élites européennes du XVIIe et XVIIIe siècle ont une assez bonne connaissance du système des examens chinois. Et donc, le premier concours pour recruter par examen en France est apparu avec la création de l'école des ponts et chaussées en 1747. Et de fait, les nouveaux corps techniques ainsi que les commis vont s'aligner progressivement sur le statut de fonctionnaire dans les dernières décennies de l'Ancien Régime. La Révolution française abolit la vénalité et l'hérédité des charges, donc tous fonctionnaires, mais normalement, dans la première version de la Révolution française, tous les fonctionnaires sont élus. Mais c'est ensuite abandonné parce qu'il y a eu les insurrections fédéralistes, etc. Et puis, il y a la remise en ordre par Napoléon. Et c'est Napoléon qui impose la nomination par le gouvernement aux emplois publics. Mais le recrutement par concours ne s'imposera que très progressivement dans la fonction publique, à l'exception de l'armée et des grandes écoles d'ingénieurs qui fonctionnent sur le recrutement par concours. Alors, pour l'armée, c'est la loi Gouvion-Saint-Cyr de 1817 qui crée tout le système d'examen, de concours dans les écoles militaires. Et c'est le modèle de l'armée qui créera ensuite le système de fonctionnaires en France, puisque c'est l'armée qui est d'abord le premier corps de fonctionnaires complètement régi par un règlement, un statut, et ainsi de suite. Alors, il en est de même en Grande-Bretagne, où les examens écrits dans les universités ne deviennent courants que dans les premières décennies du XIXe siècle. L'Indian Civil Service, créé en 1858, sera le modèle absolu du haut fonctionnaire recruté sur concours. L'école coloniale française, établie en 1889, s'en aspira largement, et ensuite elle deviendra l'école de la France d'outre-mer. Et en réalité, si vous regardez les choses, l'ENA sera construit sur le modèle de l'école de la France d'outre-mer. Donc on voit les parentés et les glissements successifs. Donc l'expansion de la bureaucratie fondée sur des recrutements par concours dans l'Europe de la fin du XIXe siècle conduira à parler de façon courante de mandarinat, soit dans l'université, les patrons, les mandarins de l'université, alors que la Chine abolit le système des examens au début du XXe siècle. Alors on retiendra aussi que les examens et les concours modernes qui se construisent à partir du XVIIIe siècle sont orientés sur les sciences modernes, les mathématiques, etc. On en a parlé ce matin. Alors que les examens chinois se faisaient sur la littérature et la philosophie. Alors passons au troisième. Là, c'est plus compliqué et plus difficile à saisir. Alors évidemment, les Européens sont arrivés en Chine, en Inde, au début du XVIe siècle. Et pour eux, ils voient d'abord la grande culture indo-persane, qui est celle du sultanat de Delhi, le sultanat du Grand Mogol. Donc on a commencé par connaître la pensée et la culture indienne par le biais du persan, puisque c'était pratiquement la langue de culture du sultanat. Les premiers auteurs portugais, quand ils tentent de rapporter la composition de la société indienne qu'ils ne peuvent saisir que régionalement, utilisent le terme de « loi » pour définir les groupes « lay », c'est-à-dire des régularisations spécifiques de ces groupes. On parle aussi de « gente ». Mais très progressivement, les Portugais vont utiliser le mot « casta », qui peut être considéré dans son usage botanique comme zoologique, être l'équivalent du français « souche ». C'est aussi bien une souche botanique qu'un individu de souche machin, la caste, la casta des Portugais. Et le mot va s'imposer en Europe pour traiter du système indien, en parlant donc de caste, c'est-à-dire de souche. Alors on va d'abord distinguer les quatre grandes castes, les guerriers, qui correspondent à la noblesse des pays, les brahmanes, pas de problème, c'est une clergé, et les lettrés, et alors là, ils ont les commerçants à part, et puis les derniers, c'est les paysans. Donc, ils ont quatre ordres, et pas trois, comme en Europe. Bon, enfin, on peut faire les équivalences. Donc là, ça n'a rien de choquant dans le système. Ensuite, on découvre les sous-castes, les jatis. Bon, là encore, il n'y a pas de problème, puisqu'en Europe, les ordres sont eux-mêmes ensuite divisés en catégories, groupes, corporations, corps, et ainsi de suite. On commence à soupçonner l'existence d'une religion propre que l'on n'a pas encore désignée sous le nom d'hindouisme, puisque il faudra attendre le XIXe siècle pour qu'on parle d'hindouisme. Et on commence à avoir connaissance des textes les plus anciens, les Védas et les Puranas. Mais on ne les connaît que par les traductions persanes. Il faut attendre Anquetil de Perron qui traduit l'Avesta à partir du texte persan. Donc vers 1760, quelque chose comme ça. Alors on comprend la difficulté des missionnaires qui prônent une religion autour d'un personnage d'humble extraction, issu d'une famille de charpentiers, c'est-à-dire de très basse caste, Et essayer de persuader les Indiens de suivre un dieu qui est issu de très basse caste, il y a comme un problème. Et ça va être donc la grande œuvre du père jésuite Roberto de Nobili, 1577-1673, adepte de la pratique de l'accommodation ou adaptation. Il a adopté le mode de vie des brahmanes et obtient la considération de ses interlocuteurs indiens. Sa thèse est que la société indienne est analogue à celle des Grecs et des Romains, ce sont des païens, c'est-à-dire donc laquelle les apôtres ont fait leur prédication. Il est donc possible de séparer un contenu religieux rempli de superstitions d'un contenu social qui peut être maintenu dans la conversion. Alors évidemment, il y aura des adversaires qui vont saisir Rome parce qu'on va l'accuser de faire de l'hérésie, mais c'est Rome qui va donner son appui à Nobili contre ses adversaires. C'est de lui que date la tradition qui va durer jusqu'à aujourd'hui, que la caste doit être interprétée aussi bien comme un phénomène religieux que comme un phénomène social. Cette distinction a été reprise par les missionnaires protestants du XIXe siècle, puis par Max Müller et Max Weber. La question essentielle était de savoir si le système de la caste était une sorte de passage aux limites de la société d'ordre européenne. Louis Dumont en a fait le modèle absolu de l'homo hierarchicus, opposé à l'homo individualis contemporain. Autrement dit, pour une fois, les tenants de la société d'ordre avaient trouvé leur bonheur en Orient. Mais il est vrai que l'on parle encore dans une certaine forme de sociologie de caste en Occident, puisqu'on dit que la mobilité sociale se restreint et que les groupes sociaux, les classes dominantes, tentent à devenir des castes. Et puis on a aussi une tendance d'une certaine gauche syndicale à aussi produire des castes, c'est-à-dire à faire des hérédités dans les métiers. On pourrait ainsi parler d'une caste des dockers dans les grands ports européens. Je ne plaisante pas, parce qu'il y a hérédité de la fonction de docker. Mais ça oublie le point fondamental de la caste. La ligne qui définit la caste, c'est la ligne entre le pur et l'impur. Le système des castes est fondamentalement un rapport de pureté entre les différents groupes sociaux. Alors la seconde explication trouvée, ça a été le mythe du législateur. On a dit, vous savez, il est très important au XVIIIe siècle, ils sont hantés par les législateurs, aussi bien Rousseau, Voltaire, etc. Ils pensent que la société a été créée quelque part par un législateur qui a fixé les règles de vie de la société. Alors les modèles de législateurs dans la pensée des XVIIIe, bon, c'est évidemment Lycurgue, Solon, etc. Mais c'est aussi Moïse et Mahomet qui sont les grands législateurs fondateur de société. Donc, cette idée qu'il y a eu un législateur a été renforcée par la traduction en 1794 des lois de Manu par William Jones. Ce texte est alors daté d'entre 1250 et 1000 avant notre ère, alors qu'aujourd'hui, on pense qu'il est un millénaire de moins. Mais les lois de Manu ont été, à partir de la traduction de William Jost, un best-seller en Europe. Alors la thèse, bon, je passe sur les auteurs de la thèse du législateur, parce qu'en plus il y a des copieurs et des plagiats dans l'affaire. La thèse du législateur renvoie à l'idée d'une stabilité telle que la société indienne n'aurait pas bougé à travers l'histoire, et que la culture indienne est anhistorique par essence. Alors, ce qui est vrai, c'est que notre connaissance de l'Inde des Védas, c'est-à-dire entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ, est très faible, très inférieure à ce qu'on dispose pour les autres grandes aires culturelles, la Chine ou l'Orient ancien. Mais il faut attendre la naissance de l'indianisme pour faire basculer les castes dans un processus d'historicisation. Et tout ça, c'est évidemment l'immense œuvre de William Jones, qui a fondé en 1784 l'Asiatic Society de Calcutta. Alors, William Jones, c'est le comparatiste absolu. Et donc, il définit par système de comparaison, puisqu'il connaît toutes les langues entre la Méditerranée et l'Indus, l'existence de parallèles, de rapports. Et tout le monde sait que la scène primitive, si j'ose dire, c'est le discours, le troisième discours anniversaire de William Jones à l'Asiatic Society de Calcutta en 1787, puisque là, il énonce que le sanskrit est une langue plus ancienne et plus belle que le grec et le latin, et qu'ils ont la même origine que le gothique et le celtique, ainsi que le vieux perse. Cela a déclenché l'essor de la grammaire comparée des langues indo-européennes, puisque, en quelque sorte, c'est la naissance de l'idée indo-européenne par William Jones en 1787. Alors, ce intérêt que porte William Jones au sanskrit, puisque c'est un des premiers à traduire directement du sanskrit en langue européenne, accompagne le mouvement général de sanskritisation de la société indienne de la première moitié du XIXe siècle. Alors, d'une part, les Anglais sont persuadés que les textes les plus anciens sont les plus purs et correspondent donc au modèle. Donc, ils vont s'inspirer des textes les plus anciens pour constituer l'Anglo-Hindu Law, qui va codifier le système de loi pour les populations hindouistes de l'Inde. Mais en même temps, comme les Anglais démilitarisent l'Inde, puisque c'est eux qui prennent le monopole militaire, les Anglais font perdre le prestige à la classe des guerriers, et celles qui profitent de l'affaiblissement de la caste des guerriers, ce sont les brahmanes. Et les brahmanes collaborent aux Britanniques, avec les Britanniques, pour sanskritiser l'Inde. Du coup, on va avoir une course à la sanskritisation, puisque, en gros, plus on se rapproche de l'idéal sanskrit, plus on est noble, pur. Et donc, toutes les castes et les sous-castes, les unes après les autres, basculent dans un processus de sanskritisation qui est accompagné de son côté par le colonisateur britannique. Mais dès lors, il devient clair que l'Inde du Nord utilise des langues indo-ariennes, contrairement à l'Inde du Sud, domaine des langues dites dravidiennes, identifiées en tant que telles dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il en résulte que si l'on représente l'arrivée des Aryens en Inde sur le modèle des invasions germaniques, et que la pureté de la race conquérante aurait été préservée par le système des castes, indépendamment du fait que les femmes peuvent en fait disposer dans le système niscas d'une situation d'hypergamie, et donc d'accéder par mariage à une caste supérieure à la leur. Alors la différence linguistique correspondrait donc à une différence de couleur de peau. Plus on irait vers le sud, plus elle serait sombre, et les hautes castes auraient la peau plus claire. On entre alors dans la controverse toujours permanente de savoir s'il a existé un peuple indo-européen originel, d'où tous les peuples parlant l'indo-européen tireraient leur origine, ou si la parenté linguistique n'implique pas une communauté de provenance. Après tout, il est difficile d'assimiler un Bengali à un Suédois, physiquement parlant en tout cas. Alors, ça pose des problèmes, puisque si en 1915, un tribunal américain a décidé que les Arabes étaient des Sémites, et donc pouvaient être considérés comme caucasiens, un autre tribunal en 1923 a jugé qu'un Indien du Pendjab, quoique aryen, ne pouvait pas être considéré comme un homme blanc libre, et donc il n'était pas un caucasien, alors qu'il était de pure ascendance aryenne, bien plus que tous les autres possibles. Alors le débat actuel oppose les philologues et les archéologues aux généticiens. Selon l'expression, je salue sa mémoire ici parce que je lui dois beaucoup, de Jacques Fussman, il en est des Indo-Européens comme des Martiens, ils font partie de nos rêves et il est difficile de se résigner à dire que les données dont nous disposons à leur sujet sont susceptibles d'interprétations contradictoires. Et on se heurte toujours à un même problème, on ne peut pas identifier une société dont on connaît les traces matérielles à un groupe humain si on ne dispose pas de textes marquant leur nom. Si on pense que les Indo-Iraniens ont émergé vers 2200 avant Jésus-Christ, les civilisations de l'Indus étaient donc antérieures aux Aryens. Mais on ne peut pas penser qu'il y a eu de conquête de l'Inde par les Aryens sur le modèle des invasions germaniques. Fussmann pensait que c'était un phénomène d'infiltration progressive d'éleveurs de bœufs, qui d'ailleurs mangeaient de la viande, qui ont progressivement, en quelque sorte, remplacé les populations pré-ariennes de l'Inde. Alors, dernier point, j'ai posé la question à mon collègue Quintanas Morsi, qu'est-ce que donnent les analyses génétiques ? Les analyses génétiques actuelles montrent la grande diversité d'origine de la population indienne, mais en même temps que les castes supérieures sont bien beaucoup plus proches des Européens et des Eurasiens que les basses castes qui sont plus asiatiques au sens génétique du terme. Mais il n'en reste pas moins que la mobilité sociale des femmes, c'est-à-dire leur hypergamie, a nettement fluidifié le système du point de vue génétique et qu'il n'existe pas de population qui soit uniquement eurasiatique ou sud-asiatique. Ce qui change entre les régions, c'est la proportion des éléments. Et du coup, signalons au passage que le colorisme de la société indienne, c'est-à-dire les préjugés contre les tons de peau foncés, est très puissant aujourd'hui et ne doit rien à la domination britannique. Après tout, pour les Indiens, les Européens étaient considérés comme particulièrement impurs, en particulier au temps du Raj. Donc, dans le système indien, on mérite son sort plus qu'on l'est méritant, puisque sa position dans la hiérarchie est le produit des actes commis dans des vies précédentes. Mais cette métempsychose est peu prise en compte dans les discours européens. Alors, on a donc pu faire, par la découverte des castes et de la théorie aryenne, de l'Inde, le modèle absolu des sociétés inégalitaires. Et tous les penseurs de l'inégalitarisme dans l'Europe du XIXe siècle se sont appuyés sur les lois de Manu. On trouve ainsi une apologie des lois de Manu chez Nietzsche, dans Le Crépuscule des idoles et dans L'Antéchrist. Anniston Stewart Chamberlain défendra les castes comme barrière à la corruption raciale et l'indianisme comme une philosophie aristocratique réservée à des élus contre l'universalisme sémitique. Je rappelle que Stanislaw Chamberlain, c'est un des prédécesseurs directs du nazisme et un idéologue proche du nazisme. Une partie des idéologues nazis suivront le mouvement avec l'insistance sur la nécessité de l'individu de se mettre au service d'une totalité qui le dépasse et de se tenir à la place qui lui est fixée. Donc là, on est dans l'inverse des mamelouks et des examens. La caste permet de définir une société inégalitaire et d'en faire l'apologie. Alors, à titre divers, l'Inde est apparue et continue d'apparaître comme un passé vivant de l'Europe. Son paganisme était ainsi le maintien d'une société d'avant la christianisation, problème majeur pour les missionnaires catholiques et protestants. Le mitharien y a trouvé à la fois son articulation vers le passé et son illustration dans le présent avec le système des castes. Par extension, le terme de Brahman a été utilisé pour désigner un groupe restreint, élitaire et largement en deux gammes, comme les Brahmanes de Boston, qui se targuaient de maintenir en dehors de leur richesse acquise des normes élevées d'excellence, de devoir et de retenue. Cette expression, les Brahmanes de Boston, créée dans la seconde moitié du XIXe siècle, a été plus tard supplantée par la notion plus élargie de WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait à peu près mon temps. Docteur. Absolument. Merci beaucoup.